l'amour de mon Sauveur, que chacun puisse dire pour lui-même, Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Et qu'ensemble, comme l'avons rappelé ce matin, Éphésiens 5, verset 2, Christ nous a... Non, Galates 2, 20, c'est le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Éphésiens 5, verset 2, Christ, puissons dire ensemble, nous a aimé et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Et quand nous voyons l'assemblée entière, Éphésiens 5, nous pouvons dire ensemble aussi que le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Et il l'a sanctifié, il l'a purifié par le lavage d'eau, par la parole, et il l'a nourri, il l'a chéri, et il se la présentera lui-même, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que l'amour, notre Sauveur, est réchauffé par ta flamme, l'avons chanté, que cela puisse entrer dans nos cœurs, qu'on puisse ainsi réaliser tout l'amour de Christ. Et nous pouvons lire dans plusieurs psaumes, commençant par le psaume 45, les versets 1 et 2.
Psaume 45, versets 1 et 2. Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Ma langue est le style d'un écrivain habile. Tu es plus beau que le fils des hommes, que les fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni à toujours.
Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Quand nous avons l'amour de Dieu, l'amour de notre Sauveur dans nos cœurs, est-ce qu'on peut dire nos cœurs bouillonnent d'une bonne parole? Et que serait, on peut dire, la réunion du culte et d'assemblée si notre cœur bouillonnait d'une bonne parole? Les fils de Corée, vous pouvez le dire, mon cœur bouillonne de bonnes paroles. Connaissons-nous les fils de Corée? Corée était un homme qui était reconnu en Israël. Mais Corée et Dathan et Abiram se sont élevés contre Moïse et contre Aaron. Et sont élevés contre Dieu lui-même. Et alors, que s'est-il passé? Il y a le jugement de Dieu qui est tombé sur eux. Le ciel s'est ouvert, ils étaient enterrés vivants avec tous leurs biens dans la fosse qui s'est ouverte. Nous trouvons cela dans le nombre 16, où nous voyons ainsi les fils de Corée. Corée lui-même, Abiram et Dathan. Mais il est écrit aussi, la grâce de Dieu qui est intervenue pour les fils de Corée. Et en nombre 26, nous voyons qu'il est écrit, « Mais les fils de Corée ne moururent pas. » Nous voyons là toute la grâce de Dieu qui est intervenue. Et nous qui sommes ici, nous sommes là par la grâce de Dieu, par l'amour de notre Sauveur, l'amour de notre Rédempteur. Et cette grâce est, comme nous le chantons dans les Cantiques 98, que c'est la grâce de Dieu. Nous avons la lettre de grâce. Nous avons la lettre de grâce. Et ainsi, nous sommes devant Dieu, que notre cœur puisse bouillonner d'une bonne parole. Et c'est dans les réunions de culte, particulièrement le cantique 45, c'est le cantique du bien-aimé. Cantique du bien-aimé. Et ainsi, les fils de Corée pouvaient ainsi parler ainsi de ce que leur cœur bouillonnait d'une bonne parole. Mais c'est conduit par l'Esprit de Dieu, l'écrivain habile, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit toujours dans notre vie, dans notre marche et dans la réunion de culte le dimanche matin. Et que voyons ce verset 2 qui était le bien-aimé, il était plus beau que les fils des hommes, plus beau que les fils des hommes. Sa grâce était répandue sur ses lèvres. Lui, il était le fils de Dieu, le fils de l'homme. Il était plus beau que tous les fils de l'homme. Et sa grâce était répandue sur ses lèvres. Nous voyons là son humanité parfaite. Nous avons rappelé ce matin qu'il était Dieu manifesté en chair, qui était le Dieu qui était là sur la terre pour venir, pour sauver les pécheurs par la grâce et par la grâce de Dieu. Alors, il était plus beau que le Fils des hommes. Nous voyons en Zacharie 9, verset 17, que combien grande est ta bonté, combien grande est ta beauté. Seigneur est plus beau que les fils des hommes. Donc ici, la louange jaillit de leur cœur. Et nous pouvons ainsi ajouter dans le psaume 71, le verset 23.
Psaume 71, verset 23. Mes lèvres et mon âme, que tu as rachetées, exulteront quand je chanterai tes louanges.
Mes lèvres et mon âme exulteront quand je chanterai tes louanges. Mes lèvres et mon âme. Nous voyons là que tout ce qui était dans le cœur de ce psaume 71, qui est le lieu de refuge, le psaume 71 commence par la confiance. Par la confiance, je ne serai pas ébranlé. J'ai mis ma confiance en l'Éternel, je ne serai pas ébranlé. Et là, son cœur, alors, lui aussi, exultait. C'est dire que tout ce qui était dans son cœur, la bouche pouvait le dire. Il était rempli de la connaissance de Dieu, de la connaissance du Seigneur Jésus pour nous. Et alors, mes lèvres et mon cœur exulteront quand je chanterai tes louanges. Quand nous chantons les louanges de Dieu, les louanges du Seigneur, est-ce que nos cœurs exultent? Est-ce que nos cœurs se bouillonnent d'une bonne parole? Notre cœur exulte. Et nous pouvons aussi rajouter dans le psaume 145, le verset 7.
Psaume 145, verset 7. Ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté et ils chanteront hautement ta justice.
Ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté. Combien grande est sa bonté. Et alors son cœur, il peut avoir chanté hautement la justice de Dieu. Combien cela est beau quand nos cœurs sont remplis de la personne du Seigneur Jésus. Et c'est le cœur qui parle. Quand c'est de l'abondance du cœur, la bouche parle. Matthieu 12, 34. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et puis, il y a un beau cantique aussi dans le psaume 84. Aussi, les deux premiers versets du psaume 84.
Psaume 84, versets 1 et 2. Combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées. Mon âme désire, et même elle languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant.
Il y a là aussi un cœur rempli. Il désire être dans les demeures d'en haut. Est-ce que nos cœurs désirent aussi d'être dans les demeures d'en haut? Le désir, comme nous le rappelons souvent au moment du culte, au moment de la scène, le désir de notre âme, et après ton nom, après ton souvenir, Ésaïe 26, 8, après ton nom, après ton souvenir, le désir de notre âme. Mais c'est fils de Sé, aussi un cantique des fils de Corée. Ils étaient remplis de la pensée de Dieu, les fils de Corée. Et ils en sont reconnaissants de ce qu'ils n'ont pas été perdus, mais sauvés par la grâce de Dieu. Et aussi, c'est un beau psaume, ce psaume 84, hein, les demeures d'en haut, les demeures d'en haut. Ce que nous désirons être dans la demeure de Dieu, bientôt nous le serons. Nous serons autour du Seigneur, c'est lui qui nous amènera là-haut, dans la gloire avec lui. Mais leur cœur bouillonnait, et leur cœur, la louange jaillit de leur cœur. Et nous pouvons là que nous tenir devant Dieu et ainsi nous tenir ainsi dans ces moments bienheureux que nous connaîtrons lorsque nous serons dans les demeures d'en haut. Mais un cœur qui bouillonne, un cœur qui jaillit et un cœur qui exulte, ici dans le Nouveau Testament, nous avons aussi Jésus, de ton amour, comme nous le chantons, vient remplir notre âme et que nos cœurs, nuit et jour, bouillonnent de ta flamme. Et nous voyons que dans Luc 24, on peut lire aussi ces deux des fils, les frères d'Emmaüs, là, qui étaient là, qui allaient dans le sens contraire, qui auraient dû aller à Jérusalem, ils sont partis dans le sens inverse. Mais le Seigneur les accompagnait. Et on peut lire en Luc 24, à partir du verset 25 au verset 35.
Luc chapitre 24, versets 25 à 35. Et il leur dit, « Ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait, dans toutes les Écritures, les choses qui le regardent. Et ils approchèrent du village où ils allaient. Et lui, il fit comme s'il allait plus loin. Et ils le forcèrent, disant, « Demeure avec nous, car le soir approche et le jour a baissé. » Et il entra pour rester avec eux. Et il arriva que, comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit. Et l'ayant rompu, il le leur distribua. Et leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Mais lui devint invisible et disparut devant eux. Et ils dirent entre eux, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures ?» Et se levant à l'heure même, ils s'en retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin et comme il s'était fait connaître à eux dans la fraction du pain.
Notre cœur ne brûlait-il pas lorsque il a marché avec eux et lorsque il leur a ouvert les Écritures? Leur cœur brûlait. Et ils étaient remplis de la personne du Seigneur qui s'était révélée à eux après qu'il était ressuscité. Tout ce qui est, voyons dans le Luc 24, nous voyons 7 choses qui était ouverte. cette chose qui était ouverte. Déjà, nous l'avons lu, verset 31, leurs yeux furent ouverts lorsque, ainsi, le Seigneur leur avait parlé, lorsqu'il avait pris du pain, le bénit et le distribué. Ce n'était pas la fraction du pain, mais le Seigneur se faisait connaître ainsi. Et il leur donnait, il leur ouvrait les Écritures, en commençant par Moïse, les prophètes et ailleurs, plus loin, les psaumes. Il leur ouvrait les Écritures, tout ce qui le concernait, lui, le Seigneur. Donc, nous voyons, là, le cœur était, leur cœur brûlait, leur cœur exultait. Et nous pouvons simplement rappeler les sept choses ouvertes dans Luc 24. Les versets 1 et 2 nous montrent que le sépulcre était ouvert, la porte était roulée, et il y avait ces anges qui étaient là, et disaient à ces femmes qui étaient là pour rechercher leur Seigneur, et il n'est plus ici, il est ressuscité, il n'est plus ici. Donc le sépulcre était ouvert. Et nous voyons, nous avons vu qu'au verset 31, leurs yeux étaient ouverts. Lorsque le Seigneur se présentait à eux, il leur parlait de la parole, tout ce qui le concernait. Et ensuite, verset 32, les Écritures étaient ouvertes. Il leur a ouvert les Écritures. Le Seigneur nous ouvre les Écritures. Aujourd'hui, il nous ouvre les Écritures. Est-ce que nos cœurs brûlent lorsque le Seigneur nous ouvre les Écritures? Là, c'est un cœur qui brûlait. Combien cela est encourageant pour nous, un cœur qui brûlait. Et ensuite, la quatrième chose ouverte, c'est au verset 45, il leur ouvrit leur intelligence pour entendre les Écritures. Il leur ouvrit leur intelligence pour entendre les Écritures. Quand le Seigneur nous ouvre les Écritures, nous l'entendons parler à nos cœurs et à nos consciences. Alors, le Seigneur nous ouvre l'intelligence. Et puis, on peut lire alors les versets 50 à 53 de Luc 24.
Luc chapitre 24, versets 50 à 53. Et il les mena dehors jusqu'à Béthanie, et levant ses mains en haut, il les bénit. Il arriva qu'en les bénissant, il fut séparé d'eux, et il fut élevé dans le ciel. Et eux, lui ayant rendu hommage, s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.
Les mains du Seigneur étaient ouvertes, verset 50. Les mains du Seigneur étaient ouvertes. Et ses mains restent ouvertes, comme nous le chantons, ouvertes pour bénir. Donc le Seigneur levait les mains. On peut beaucoup parler des mains du Seigneur dans la parole de Dieu, même déjà dans l'Ancien Testament, dans Esdras, la bonne main de Dieu. Les mains restaient ouvertes. Et puis, Seigneur, le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Le Seigneur fut élevé dans le ciel. Il n'a pas dit qu'il fut enlevé, il fut élevé. Les croyants seront enlevés à la venue du Seigneur Jésus. Et le Seigneur fut élevé, comme l'acte 1 le dit aussi deux fois, le Seigneur fut élevé dans le ciel. Et en Timothée 3,16, le Seigneur fut élevé dans la gloire. Le Seigneur fut élevé dans le ciel. Alors, ses disciples qui étaient là, alors, leur bouche fut ouverte, à la fin du verset 53. Leur bouche était ouverte, ouverte pour louer et pour bénir. Ils louaient et bénissaient Dieu. Donc le Seigneur s'est présenté à eux, et bien sûr, il leur montra les pieds et leurs côtés. Le Seigneur leur montra les pieds percés et le côté percé. Alors, le Seigneur se présenta à eux, et ils étaient réjouis, et on peut dire que leur cœur brûlait. pour le Seigneur, leur cœur brûlé, ainsi que, vous m'en toujours le chanter, que l'amour de Dieu brûle nos cœurs, l'amour du Seigneur brûle nos cœurs, lorsque nous sommes réunis dans les réunions, et aussi que nous puissions ainsi réaliser cela dans nos cœurs à chacun, aussi pensons aussi aux enfants qui sont là, qui puissent être touchés par l'amour du Seigneur, par l'amour de Dieu, par l'amour de notre Sauveur, et que nos cœurs puissent brûler, et ainsi louer le Seigneur de tout notre cœur dans le ciel. Il n'y aura plus de courte infirmité, nous serons dans la gloire, et alors nous chantons alors éternellement notre amour, l'amour de notre Sauveur. Que cela aussi réjouisse toujours nos cœurs dans les temps difficiles que nous traversons, mais aussi que nous puissions toujours regarder en haut, contempler celui qui est là-haut. Nous sommes 45, c'était la contemplation du fils de l'homme, du roi d'Israël, était dans la contemplation. Et le contemplant ainsi, et leur cœur bouillonnait d'une belle parole. Et leur cœur, en psaume 111, il exultait. Et ainsi, que nos cœurs aussi, que notre louange puisse jaillir dans nos cœurs, le psaume 145. Et ainsi, le Seigneur soit honoré et soit glorifié dans nos cœurs.
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 32, il nous est dit, ils dirent entre eux, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures. Pour que notre cœur brûle et soit étreint de l'amour du Seigneur, c'est uniquement quand les Écritures nous sont ouvertes par le Saint-Esprit. C'est en lisant la parole de Dieu, en y cherchant Christ, car ce sont les Écritures qui témoignent de lui, que notre cœur aujourd'hui peut brûler. Et dans ce verset 32, c'est lorsqu'il ouvrait les Écritures qui le concernaient que les cœurs de ses disciples qui s'éloignaient de Jérusalem ont été touchés dans leurs affections. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 42, il nous est dit que les chrétiens, au début de l'histoire de l'Église, persévérer dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Dans ce verset, nous avons les quatre piliers de la vie de l'Assemblée. Et le premier point qui est nommé, c'est que les chrétiens persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres. Cela peut sembler très étonnant que la doctrine soit mise d'abord en premier. Peut-être que nous aurions mis autre chose. Est-ce que c'était l'affection entre ces croyants nouvellement convertis qui les unissait les uns aux autres? Eh bien non, c'était la doctrine des apôtres ou l'enseignement des apôtres. Et pourquoi l'enseignement des apôtres était si important dans l'histoire de l'Église au début? Eh bien, parce que l'enseignement des apôtres, à ce moment-là, c'était les paroles de Christ qu'ils avaient entendues. Et ce sont les paroles de Christ dont ces chrétiens s'entretenaient tous les jours. Et la communion, nous le voyons, était liée à cette doctrine parce que ces chrétiens, au début de l'histoire de l'Église, ils s'entretenaient entre eux des paroles de Christ qu'ils avaient entendues pendant le séjour du Seigneur Jésus sur cette terre. Ils persévéraient dans la doctrine, ils s'occupaient, ils s'entretenaient des paroles de Christ. Et le deuxième point, c'est que la communion qu'ils réalisaient entre eux était justement en relation avec ces paroles de Christ. Et le sujet qui les liait ensemble, eh bien, c'était ces paroles qui étaient dites et redites par les apôtres à ce moment-là. Le sujet de leur conversation, le sujet de leurs entretiens, c'était les paroles de Christ. Alors la question que nous pouvons nous poser, quels sont les sujets de nos entretiens? Et est-ce que nous avons à cœur, dans nos entretiens, de relater, de nous rappeler quelles étaient les paroles de Christ? C'est au fond le grand sujet qui peut faire brûler nos cœurs, c'est d'entendre à nouveau les paroles du Seigneur qu'il a prononcées sur cette terre. Les disciples d'Emmaüs qui s'éloignaient, eh bien, c'est tout ce qui concernait le Seigneur Jésus, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, qui avait fait brûler leur cœur. Les chrétiens, au début de l'histoire de l'Église, eh bien, ce qui les liait entre eux, cette communion qu'ils vivaient entre eux, le sujet qui les liait entre eux, c'était les paroles de Christ et rien d'autre. Leur cœur qui brûlait, eh bien, les amenait donc à se souvenir du Seigneur Jésus dans la fraction du pain. Troisième sujet, troisième pilier. Et le quatrième, bien sûr, les chrétiens à ce moment-là, eh bien, ils ressentaient le besoin d'être dépendants de Dieu. Ils ressentaient le besoin de connaître la volonté de Dieu, de connaître la volonté du Seigneur dans la vie. Les quatre piliers, c'est la doctrine, l'enseignement des apôtres, c'est les paroles de Christ dont ils s'entretenaient entre eux. Le deuxième pilier de la vie de l'Assemblée, c'est cette communion qu'ils réalisaient entre eux en s'entretenant de ces paroles de Christ. Leur cœur brûlait à ce moment-là, eh bien, ils avaient à cœur de se souvenir de la mort de leur Sauveur et de leur Seigneur. Il est même dit, je crois, tous les jours, tellement leur cœur brûlait à ce moment-là. Avec ce sentiment du besoin qu'ils avaient de s'adresser à Dieu pour être dépendants de sa volonté. Encore un verset, toujours dans le même sujet, dans l'Épître aux Colossiens. Épître aux Colossiens, chapitre 3, en relation avec ce qu'on a dit sur l'adoration et sur le culte. Colossiens 3, verset 16. Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Nous voyons encore la place qui devrait être la nôtre de la parole de Dieu dans nos cœurs. Que la parole de Christ habite en vous richement. Là, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Christ habite en nous richement. Habite. Ça veut dire qu'elle y demeure. Ce n'est pas un verset que nous lisons de temps à autre, d'une manière fugace, et au bout d'une heure ou deux, nous avons oublié le verset que nous avons lu. Que la parole du Christ habite en vous. Le souhait de l'apôtre, c'est que la parole du Christ habite dans nos cœurs. Qu'elle y demeure, et qu'elle y demeure richement. Et la parole de Christ nous entretient de quoi ? La parole de Christ nous entretient de sa vie, de son sacrifice, de sa mort, de son élévation dans le ciel. Elle nous occupe de sa personne. La parole de Christ nous occupe toujours de la personne du Seigneur Jésus. Et le désir de l'apôtre, c'était que Christ habite dans nos cœurs par cette parole. Et si nous réalisons de telles choses, que cette parole du Christ habite en nous richement, d'abord, la première conséquence, c'est qu'elle nous conduit à la source de toute sagesse. C'est-à-dire Christ lui-même. Si je possède dans mon cœur la parole du Christ richement, eh bien, ma conduite, eh bien, le Seigneur va nous indiquer les choix dans nos vies, ce que nous devons faire en toute sagesse. C'est Christ qui est la source de toute sagesse dans notre vie. La deuxième chose, c'est que nous sommes exhortés l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Si la parole de Christ habite en nous richement, dans notre vie, nous agirons avec toute sagesse. Mais la deuxième chose qui nous est dite, c'est que nous sommes amenés dans nos relations fraternelles à nous exhorter l'un l'autre par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Voilà le sujet de nos conversations, ce que devrait être le sujet de nos conversations. Est-ce que le sujet de nos conversations, c'est Christ ? Est-ce que Christ habite dans nos cœurs de telle façon que nos cœurs débordent et quand nous avons des entretiens entre nous, nous sommes amenés à parler de sa personne parce qu'elle remplit notre cœur ? Ou bien est-ce que nos entretiens sont des entretiens futiles ? Est-ce que ce sont des entretiens qui se sont banalisés avec le temps ? De quoi, de quel sujet nous avons comme entretien entre nous. Et la troisième exhortation de l'apôtre, eh bien, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Ce qu'a dit notre frère tout à l'heure, que notre cœur bouillonne d'une bonne parole, hein, que notre cœur exulte, hein, exprime cette louange que nous avons dans le cœur. La condition première, c'est que la parole de Christ habite en nous richement. Est-ce que nous ne pourrions pas trouver quelquefois que l'origine de la pauvreté de notre adoration ou de notre culte, c'est parce que dans la semaine, nous ne sommes pas occupés assez de la personne du Seigneur Jésus? Est-ce que sa parole nous a habités richement jour après jour? Est-ce que nos cœurs débordent tellement de sa personne que quand nous nous en rencontrons, eh bien, nous avons à cœur de parler de cette personne? Et le dimanche matin, est-ce que notre cœur, ayant été occupé de sa personne, vont bouillonner ensemble pour rendre culte à Dieu et pour rendre culte au Seigneur? On m'a raconté il y a quelques années un frère qui disait toujours à un frère ou à une sœur qu'il a rencontré, qu'il connaissait ou qu'il ne connaissait pas, et lui posait comme question: qu'as-tu appris de la personne du Seigneur Jésus depuis que nous nous sommes rencontrés la dernière fois? Nous nous sommes vus il y a une semaine, dis-moi s'il te plaît, qu'as-tu appris de nouveau de la personne du Seigneur Jésus depuis les 8 jours qui sont passés? Est-ce que depuis une semaine, nous avons appris quelque chose de la personne du Seigneur Jésus? Est-ce que la parole de Christ habite en nous richement? Ou bien pauvrement? Est-ce que la parole de Christ habite richement en nous? Si nous réalisons de telles choses, quelle heureuse communion nous aurions les uns avec les autres? De quel sujet nous serions occupés les uns avec les autres? Et le dimanche matin, est-ce que nos cœurs ne bouillonneraient-ils pas? Nos cœurs ne exulteraient pas en adoration vers Dieu et vers le Seigneur.
Le 68, strophe 1, 2 et 4.
veux encore juste lire un exemple dans la parole de ce que l'on a dit. Lire un exemple de comment on trouve dans la parole des nouveaux traits du Seigneur Jésus. Je veux lire dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5. Au verset 2, c'est la bien-aimée qui dormait et son bien-aimé vient à elle. Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui heurte. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est pleine de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. Je me suis dépouillé de ma tunique, comment la revêtirais-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je? Mon bien-aimé a avancé sa main par le guichet, et mes entrailles se sont émues à cause de lui. Au verset 9, ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? Ton bien-aimé, qu'est-il de plus qu'un autre bien-aimé que tu nous adjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, un porte-bannière entre 10 000. Sa tête est un or très fin. Ses boucles sont flottantes, noires comme un corbeau. Ses yeux, comme des colombes, près des ruisseaux d'eau, baignés dans le lait bien enchâssé. Ses joues comme des parterres d'aromates, des corbeilles de fleurs parfumées, ses lèvres des lys distillant une myrrhe limpide, ses mains des rondelles d'or, où sont enchâssées des chrysolites, son ventre un ivoire poli couvert de saphir, ses jambes des colonnes de marbre blanc reposant sur des socles d'or fin, son port comme le Liban, distingué comme les cèdres, son palais est plein de douceur et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. On peut juste dire sur ce passage que ce qui a réchauffer le cœur de la bien-aimée, c'est d'entendre la voix du bien-aimé et de voir sa main. Et pour nous, ce qui réchauffe notre cœur, on l'a dit, c'est d'entendre la voix du Seigneur dans la parole et aussi de voir ce qu'il fait, de voir sa main. Et le résultat de cela, quand nous l'entendons nous dire « ma parfaite », par exemple, que l'on se rend compte que on ne mérite pas un tel nom, le résultat de cela, c'est que nous désirons savoir comment il est, dans ses traits et dans son caractère. Et peut-être une question pour nous, c'est « est-ce que nous connaissons bien Jésus ?» Nous connaissons bien des histoires sur lui, nous connaissons bien des choses dans les évangiles, mais est-ce que nous le connaissons dans sa personne? Est-ce que cela nous donne envie dans notre cœur de le connaître mieux et de pouvoir en faire une description très précise, n'importe quand de la semaine, pas seulement le dimanche? On peut voir que la bien-aimée savait que la tête de son bien-aimé était un or très fin, qu'elle était glorieuse et hautement élevée, on peut dire. Pour le Seigneur, ça, il est glorieux, c'est un or très fin et hautement élevé. Ses boucles sont flottantes, noires comme un corbeau. Il n'a pas de cheveux blancs, ses années sont de génération en génération. Et même si il a pu dire « Ne m'ôte pas à la moitié de mes jours sur la terre », la réponse de son père, c'était « Tes années sont de génération en génération ». Ses yeux comme des colombes près des ruisseaux d'eau, baignés dans le lait, bien enchâssés. Ça nous parle certainement de la grâce qu'il y avait dans le regard du Seigneur, mais aussi de la pureté. Il ne pouvait pas voir le mal. Et bien enchâssé, nous savons ce qu'était le regard de Jésus pour Pierre. Un regard ferme. Et je ne veux pas tout décrire, mais ses lèvres distillant, ses lèvres délices distillant une myrrhe limpide. Tout ce qu'a dit le Seigneur était pureté et était grâce. Et si nous continuons à chercher et à contempler la personne du Seigneur, nous pourrons dire, comme la bien-aimée, toute sa personne est désirable.